Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Léa Sabourin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Louis Bardinet.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième temps de notre série consacrée au nouveau visage de la concurrence. Après avoir examiné hier les multiples formes que prend la rivalité entre les entreprises et avant d'interroger demain les stratégies européennes de lutte contre les monopoles, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les textes fondateurs des théories de la concurrence. En 1714, le médecin néerlandais Bernard Mandeville publie La fable des abeilles, sous-titrée « Les vices privés font la vertu publique », une fable politique qui cherche à prouver que la concurrence des intérêts et les passions individuelles servent en réalité le bien commun. Une vision qui a longtemps dominé la pensée économique et justifié la mise à l'écart de l'État. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour nous accompagner dans le labyrinthe théorique de la concurrence, nous avons le plaisir de recevoir Denis Clerc, économiste fondateur du magazine Alternatives économiques et auteur de cet ouvrage « Déchiffrer les grands auteurs de l'économie et de la sociologie » paru aux éditions Syros. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera, comme chaque jour, des nouvelles de l'écho. Bonjour Denis Clerc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, la fable des abeilles de Bernard Mandeville, publiée un demi-siècle avant la richesse des nations d'Adam Smith, est un texte qui préfigure en quelque sorte les théories classiques de la concurrence.
Oui, d'une certaine manière, mais surtout ce sur quoi il insiste, c'est que ce qui est vice individuel devient une vertu collective. La concurrence est donc à la fois quelque chose, un combat, mais en même temps un agrément de la société, une façon de faire vivre la société tout ensemble mieux.
Et alors les économistes classiques comme Adam Smith, mais aussi Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat vont s'inspirer de cette vision. Quelle sera la conception de la concurrence qu'ils vont développer, Denis Clerc ?
Alors, chez Adam Smith, qui est le fondateur, hein, Mandeville, tout à l'heure, c'était un peu une fable, donc c'est pas très intéressant. En revanche, Smith est reconnu comme le père de l'économie politique donc au XVIIIe siècle, hein, 1776, ça fait 250 temps, et il est toujours considéré comme le grand penseur qui a lancé l'économie. Et lui, il insiste sur le fait que la concurrence permet de vendre au prix le plus bas possible pour les consommateurs. Et donc, c'est la chose sur laquelle il insiste. Mais il insiste également sur le fait que la concurrence régit le domaine du travail, et que dans ce domaine-là, les employeurs ont bien plus de facilité à se coaliser que les salariés qui sont poursuivis lorsqu'ils font une entente. Mmh. Donc les patrons, les maîtres, comme dit Adam Smith, ont la capacité de faire peser sur les salariés une force que les salariés ne parviennent pas forcément à éviter. Et donc il y a une inégalité. Et c'est intéressant. On présente souvent Adam Smith comme le chantre du libéralisme, mais il montre aussi l'autre côté du libéralisme, c'est-à-dire l'exploitation.
Contrairement peut-être à ce que développera plus tard Milton Friedman, et qui va expliquer que la concurrence est positive autant du côté des producteurs que du côté des salariés.
Oui, oui, oui. Ça, c'est la caractéristique de Friedman, hein, laisser faire, reprenant la phrase attribuée à Turgot. Donc, on voit bien que au fil du temps, les réticences sur la concurrence se sont estompées. Je voudrais simplement souligner que, par exemple, Frédéric Bastiat, 1850, hein, en France, voyait dans la concurrence l'œuvre de Dieu qui allait permettre à l'ensemble de la société de découvrir la divinité qu'est devenue l'économie. Et puis, il y a également Jean-Baptiste Say, mais lui, Jean-Baptiste Say, c'est un entrepreneur, hein, il était le frère du créateur de la sucrerie Béguincé, qui aujourd'hui n'existe plus sous ce nom-là, mais Jean-Baptiste Say a insisté sur le fait que moins l'État se mêle des affaires des entreprises et mieux tout le monde se porte. Donc c'est des chantres intégraux, si j'ose dire, de la concurrence. concurrence pure et parfaite.
Alors on va voir comment cette conception va évoluer et sera interprétée par les économistes qui leur sont postérieurs, mais restons encore sur cette époque de l'école classique dans la première moitié du 19e siècle. Un contemporain de Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat, Antoine-Auguste Cournot, va être le premier auteur à analyser mathématiquement la notion de concurrence, Denis Clerc.
Oui, et surtout sous l'angle du monopole. Il montre que le monopole, effectivement, est quelque chose qui, en augmentant le niveau des prix, défavorise les consommateurs, mais aussi empêche des producteurs d'accéder au marché. Et il va le démontrer mathématiquement à l'aide d'exemples, et c'est la première fois que, dans la pensée économique, le calcul mathématique devient une forme de raisonnement. Ce sera pas la seule, mais il est un précurseur de ce point de vue-là.
Antoine-Augustin Cournot, qui va inspirer les théories néoclassiques élaborées, entre autres, par Léon Valras.
Les marchés les mieux organisés sous le rapport de la concurrence sont ceux où les ventes et achats se font à la criée, par l'intermédiaire d'agents tels qu'agents de change, courtiers de commerce, crieurs qui les centralisent, de telle sorte qu'aucun échange n'ait lieu sans que les conditions en soient annoncées et connues, et sans que les vendeurs puissent aller au rabais et les acheteurs à l'enchère. À côté de ces marchés, il y en a d'autres où la concurrence, quoique moins bien réglée, fonctionne encore d'une manière assez convenable et satisfaisante. Tels sont les marchés aux fruits et légumes, à la volaille. Les rues d'une ville où se trouvent des magasins et des boutiques de boulangers, de bouchers, d'épiciers, de tailleurs, de bottiers, sont des marchés d'une organisation un peu plus défectueuse sous le rapport de la concurrence, mais où cependant elle se fait très suffisamment sentir. Enfin, le monde peut être considéré comme un vaste marché général, composé de divers marchés spéciaux, où la richesse sociale se vend et s'achète, et il s'agit pour nous de reconnaître les lois suivant lesquelles ces ventes et achats tendent de même à se faire. Pour cela, nous supposerons toujours un marché parfaitement organisé sous le rapport de la concurrence, comme en mécanique pure, on suppose d'abord les machines sans frottement.
Voilà, c'était un extrait de l'essai de Léon Valras, Éléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale, un essai qui a été publié en 1874. La grande idée de Valras, Denis Clerc, c'est que la libre concurrence absolue permet de créer un équilibre général de tous les marchés.
Oui. C'est ça, vraiment la démonstration de Valras, c'est le fait que la demande et l'offre peuvent se rencontrer, mais que c'est vrai pas seulement au sein d'une branche ou pour un produit donné, mais pour l'ensemble des produits mis en vente sur le marché ou demandés par des consommateurs. Et Valras montre que c'est mathématiquement possible. Il ne dit pas que c'est la réalité. Valras était plutôt socialiste, hein, mais il dessine un cadre qui est une espèce de
cadre théorique.
Oui, c'est un cadre théorique dans lequel, au fond, les intérêts de tous sont respectés au mieux. Et Pareto, qui succédera à Valras, va ajouter que cette libre concurrence pure et parfaite, c'est comme ça qu'on va l'appeler désormais, est en même temps la plus efficace possible dans le système économique. Donc, à la fois, les prix sont les plus bas, il n'y a pas de demande qui ne soit honorée, et en plus, l'économie fonctionne au mieux.
Et alors, il y a cette idée importante que c'est le marché qui détermine les prix et non pas les producteurs. C'est vraiment l'idée qui va infuser toute cette pensée.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important parce que derrière Valras, il va y avoir toute une cohorte d'économistes qui vont s'appuyer sur cette supériorité de la concurrence, à condition qu'elle soit pure et parfaite, pour montrer à quel point le marché est un élément indispensable pour le fonctionnement de l'économie.
Et alors certains économistes vont même aller encore plus loin. En 1954, je fais un saut dans le temps, Kenneth Arrow et Gérard Debreu vont démontrer que cet équilibre général aboutit au plein emploi, et c'est une thèse qui va être critiquée par Keynes, par exemple.
Oui, Keynes n'est pas contemporain de Harrow, hein, il est mort en 1946, alors que Kenneth Harrow a publié ses premières œuvres dans les années 50. Mais donc il n'y a pas eu rencontre entre ces deux personnages. Mais alors que Keynes disait que du point de vue global de l'économie, les économistes disent de la macroéconomie, le marché peut aboutir à des insuffisances, voire à des crises, 1930. Kenneth Harrow et De Broglie, qui a été l'un et l'autre, qui ont été l'un et l'autre nobilisés pour cela, ont démontré que non seulement c'était envisageable la concurrence pure et parfaite, mais que en plus c'était la situation optimale et donc il ne pouvait pas y avoir de crise.
Alors la situation optimale, nous dites-vous, et désormais on parle en effet de concurrence pure et parfaite. C'est un autre économiste, l'américain Frank Knight, qui détaille les conditions de cette concurrence pure et parfaite, et il va dénombrer cinq conditions. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, Denis Clerc ?
Alors, c'est ce qu'on appelle l'atomicité, c'est-à-dire un très grand nombre de producteurs. C'est l'information parfaite et des consommateurs et des producteurs. C'est la libre entrée sur le marché. Et c'est enfin l'ensemble des dispositions qui vont permettre à tous de disposer d'une information totale de où se trouvent les prix les meilleurs ou les plus bas et les produits les meilleurs ou les moins chers.
Les produits qui sont homogènes.
Voilà.
L'homogénéité des produits, on va revenir sur cette notion qui est effectivement importante et qui va être contestée plus tard. Mais alors, dans cette vision néoclassique, les acteurs économiques sont considérés comme parfaitement rationnels, il faut le souligner. Comment comprendre cette idée selon laquelle le producteur est censé chercher à maximiser son profit et le consommateur cherche à maximiser son intérêt ?
Ben, c'est au fond chacun essaye de trouver le mieux pour lui, et donc la rencontre entre les deux volontés, celle de l'acheteur et celle de l'offreur, enfin du producteur, normalement ça devrait être plutôt conflictuel, mais ce que montrent De Broglie et Harrow, c'est que non seulement c'est pas conflictuel, mais c'est l'intérêt des deux d'avoir ça, et il conclut sur le fait que dans cette situation-là, le profit disparaît. C'est-à-dire que tant qu'il y a du profit, il va y avoir de nouveaux producteurs qui vont s'installer sur le marché puisque c'est rentable. Mais à partir du moment où de nouveaux producteurs s'installent sur le marché, le profit tend à diminuer parce que l'offre augmente et que les clients ont plus de possibilités. Donc les prix baissent et ils baissent jusqu'à ce que le profit disparaisse.
D'où le fait que Walras avait lui-même prédit la quasi-disparition du profit, ce qui paraît un petit peu paradoxal avec cette idée que l'entrepreneur entre sur le marché précisément pour faire du profit.
Oui, mais attention, Walras disait le profit pur, c'était ça qu'il appelait, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la rémunération normale de l'entrepreneur ou du manager. Et donc, il ne pensait pas à la rémunération des actionnaires, il ne pensait pas à un certain nombre de choses de ce style. Par contre, De Broglie et Harrow vont intégrer dans leur modèle qui est hautement mathématisé, ils vont intégrer toutes ces dimensions. Et le profit, c'est ce qu'on appelle la rente de monopole, c'est-à-dire quelque chose qui va disparaître tant qu'il n'y a pas suffisamment d'offreurs ou pas suffisamment de demandeurs.
Alors ce qu'il faut bien expliquer, Denis Clerc, c'est qu'il s'agit là d'un modèle irréaliste. Même les partisans de la concurrence pure et parfaite le reconnaissent. Pour réunir les conditions, c'est quasiment impossible en réalité.
Absolument. Et il va y avoir toute une école de pensée qui va souligner ça. Depuis, alors au 19e siècle, John Stuart Mill, par exemple, va dire les partisans de la concurrence, ils exagèrent. Hein, ils oublient que c'est quand même une lutte, une concurrence, et qu'il y en a qui disparaissent. Et bon, donc on voit bien qu'il y a des réticences sur le caractère, en quelque sorte, pacifique et bénéfique pour tous de la concurrence. Et c'est donc sur ce point-là que des économistes, je pense à Joan Robinson ou à Edward Chamberlain, qui était un un Américain, vont insister sur le fait que la concurrence pure et parfaite n'existe pas et que dans la réalité, il y a des différenciations, des publicités, etc., qui vont modifier le comportement des consommateurs. Et c'est ce que Galbraith, par exemple, va souligner très fortement. Ce sont les firmes qui décident de ce que les consommateurs vont acheter.
On va parler bien sûr de Joanne Robinson et de Galbraith, mais avant cela, pour qu'on comprenne bien l'irréalisme de ce modèle, l'économiste George Reisman, par exemple, a montré avec l'exemple du cinéma, c'est absolument impossible de réunir les conditions de la concurrence pure et parfaite, par exemple, dans le cadre du cinéma, Denis Clerc.
Oui, parce que si on voulait que ce soit pur et parfait, que l'information existe, il aurait fallu que les gens qui font la queue pour aller au cinéma, ils aient déjà vu le film. Sinon, ils ne feraient pas la queue. Ils ne seraient pas informés que c'est un film intéressant ou bon. Ou alors, ils peuvent être informés par la presse ou autre, mais sauf qu'il y a des asymétries d'informations qui font que la presse peut être plus ou moins vendue aux producteurs et faire de la publicité pour un film qui, en réalité, ne vaut pas la peine. Et puis, le prix du ticket, s'il y a une longue queue, eh bien, la personne qui délivre les tickets devrait augmenter le prix unitaire de chaque ticket puisqu'elle sait que tout le monde ne pourra pas rentrer.
Elle est obligée de le faire pour correspondre au marché.
Oui, pour répondre au marché. C'est l'excès de la demande sur l'offre qui fait monter les prix. Et à l'inverse, si la queue n'est pas suffisamment longue, la personne qui vend les tickets devrait baisser les prix pour que tout le monde, que la salle soit remplie quand même. Et on voit bien l'irréalisme du dispositif. C'est Reisman qui montre ça. C'est ce qu'on appelle un économiste autrichien, c'est-à-dire de tendance autrichienne, des gens qui croient beaucoup à la libre concurrence, mais pas à la libre concurrence pure et parfaite, parce qu'ils pensent que c'est une utopie.
Vous citiez tout à l'heure Vilfredo Pareto, le disciple de Walras. Pour lui, l'équilibre général concurrentiel que Walras a développé et explicité conduit à un optimum, c'est le fameux optimum de Pareto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Denis Clerc ?
C'est très simple. C'est le fait qu'il y a optimum lorsque la collectivité désire mieux rémunérer quelqu'un, eh bien, ça prive un autre ou d'autres de quelque chose.
Il faut trouver un juste équilibre.
Voilà. L'optimum de Pareto, qu'on devrait dire l'efficacité de Pareto, c'est le fait que vient un moment où faire des gagnants engendre des perdants. Et ça, c'est pas acceptable pour Pareto. Pareto était pas le disciple de Walras. Il est le successeur de Walras. C'est pas Walras qui l'a choisi. Il aurait pas voulu de Pareto. Mais néanmoins, Pareto a poursuivi l'analyse de Walras.
Leur vision était tout de même assez proche.
Oui.
Alors, ce qu'on va voir, Denis Clerc, c'est que pour l'économiste américain Milton Friedman, malgré tout ce qu'on a pu dire sur l'irréalisme de ce modèle, la concurrence pure et parfaite est le meilleur modèle possible. Voilà ce qu'il écrit.
Aussi longtemps que l'on maintient une liberté d'échange effective, le trait central du mécanisme de marché est qu'il empêche une personne de s'immiscer dans les affaires d'une autre en ce qui concerne la plupart des activités de cette dernière. Du fait de la présence d'autres vendeurs avec lesquels il peut traiter, le consommateur est protégé contre la coercition que pouvait exercer sur lui un vendeur. Le vendeur est protégé contre la coercition du consommateur par l'existence d'autres consommateurs auxquels il peut vendre. L'employé est protégé contre la coercition du patron parce qu'il y a d'autres employeurs pour lesquels il peut travailler, etc., etc. Le marché y parvient de façon impersonnelle et sans qu'il soit besoin d'une autorité centralisée. À vrai dire, c'est précisément et surtout parce qu'elle remplit si bien cette tâche que l'économie libre se heurte à des objections. Car elle donne aux gens ce qu'ils veulent et non pas ce que tel groupe particulier pense qu'il devrait vouloir. Ce qui se cache derrière la plupart des arguments contre le marché libre, c'est le manque de foi dans la liberté elle-même.
Voilà un extrait de Capitalisme et Liberté de Milton Friedman, publié en 1962. Ce que nous dit Friedman ici, Denis Clerc, c'est que la concurrence est bonne donc pour les vendeurs, pour les consommateurs et pour les salariés.
Pour tout le monde, oui. Et il évacue complètement les conflits qui peuvent surgir, les problèmes d'asymétrie d'information dont je parlais tout à l'heure. Et il pense que cette concurrence-là là, elle est bénéfique parce que nul n'a de pouvoir sur les autres. Les pouvoirs s'équilibrent en quelque sorte. C'est le producteur A contre le producteur B. C'est une lutte, mais en même temps, c'est un équilibre puisque ni A ni B ne peuvent profiter de d'un pouvoir de monopole.
C'est le plus talentueux qui l'emporte.
Oui, c'est ça. C'est pas seulement le plus talentueux, c'est celui qui sait le mieux innover, mais avec des produits qui sont de bonne qualité. Alors que, par exemple, Charles Gide va insister, l'oncle d'André Gide, hein, va insister sur le fait que la libre concurrence engendre des problèmes de qualité, et il cite notamment des boulangers qui n'hésitent pas à mettre un peu de plâtre à l'intérieur de leur farine pour pouvoir vendre un produit moins cher en apparence et attirer des clients.
Alors, est-ce que, Denis Clerc, vous diriez que les politiques anti-monopole aux États-Unis, comme en Europe, ont été directement inspirées par cette vision de la concurrence juste et parfaite, pure et parfaite?
Oui, les lois antitrust qui ont commencé aux États-Unis vers 1890 et puis qui se sont poursuivies...
C'est d'abord le Sherman Act, puis le Clayton Act en 1914.
Par la suite, avaient pour objet de... réguler la concurrence, non pas de sanctionner les firmes, elles ont été sanctionnées, mais de réguler la concurrence en faisant en sorte que aucun des compétiteurs n'ait de pouvoir sur le marché. Ça n'a pas très bien fonctionné, hein. Et aujourd'hui, bon, on peut dire que les lois antitrust n'ont pas vraiment de poids dans le fonctionnement des économies contemporaines. Peut-être elles en ont un peu plus en Europe, mais vous le verrez demain, qu'aux États-Unis.
Mais alors, c'est une vision selon laquelle il faudrait que l'État empêche les concentrations considérées comme néfastes. On est loin de la vision de Friedman, par exemple, qui estimait que l'État ne doit pas intervenir précisément.
Oui. Il y a d'un côté le marché complètement libre et qui est bénéfique pour tous, ça c'est Friedman, et puis il y a de l'autre le marché dans lequel le plus fort tire des rentes de monopole et qu'il faut sanctionner. Mais au-delà de ça, alors c'est très curieux parce que l'initiative vient d'un économiste britannique, Marshall, qui a précédé Walras en quelque sorte et qui pour la première fois a fait aussi usage de mathématiques dans la démonstration que la concurrence était bénéfique pour tous.
Pour bien comprendre, Marshall, c'est l'école de Cambridge, Walras, c'est l'école de Lausanne.
Voilà, c'est ça. Et ce que dit Marshall, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il dit qu'un ensemble de petites firmes concurrentielles peuvent très bien arriver à vendre plus cher le même produit qu'une seule firme qui les remplacerait, parce que non seulement elle fait des économies d'échelle, mais en plus, ça peut permettre de réduire les coûts de marketing, les coûts de distribution, etc. Du fait, alors l'exemple type, c'est aujourd'hui, par exemple, dans les complémentaires santé ont des coûts de gestion bien supérieurs à la sécurité sociale parce qu'elles sont obligées de se faire concurrence pour s'arracher des clients. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la concurrence pure et parfaite. Parfois, le monopole peut, ou les très grandes entreprises, être bénéfiques aux clients, enfin aux acheteurs.
C'est un monopole qui serait efficace et on peut dire que c'est un monopole naturel ou une extension de ce qu'on appelle un monopole naturel ?
Oui, enfin le terme de naturel est controversé parce que le monopole naturel, c'est lorsque une activité quelconque ne peut être exercée que par un producteur pour des raisons de coût. Par exemple, on ne va pas mettre deux autoroutes l'une à côté de l'autre sous prétexte de concurrence, l'une pour Vinci et puis l'autre pour un autre propriétaire. Donc ça, c'est un monopole naturel. Le monopole dont vous parlez, c'est plutôt le monopole efficace, c'est-à-dire qui n'abuse pas de son pouvoir de fixer le prix, mais qui, en même temps, va être suffisamment performant dans ses capacités de production pour que le consommateur non seulement n'y perde pas, mais y gagne.
Vous avez parlé de Joan Robinson. Denis Clerc, on va voir dans un instant comment la théorie de la concurrence pure et parfaite va être remise en question par un certain nombre d'économistes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
We're gonna make a star of you.
Vous écoutez The Rules of the Market de Ginger Ale. Entendez-vous, l'écho se poursuit sur France Culture avec l'économiste Denis Clerc, suite de notre émission consacrée aux théories de la concurrence. Alors, on commençait à l'esquisser. D'autres conceptions de la concurrence vont émerger au début du XXe siècle, en particulier avec l'économiste Joan Robinson, qui va proposer un modèle de concurrence imparfaite. Alors, en quoi consiste le modèle qu'elle propose, Denis Clerc?
Alors, avant d'expliquer le modèle, je souligne que Joan Robinson, c'est la première économiste. Il y a eu des femmes qui, au 19e siècle, ont écrit sur l'économie, mais dans la profession d'économiste, et notamment d'économiste universitaire, elle a enseigné à Cambridge, elle était la première, mais elle n'a jamais pu devenir professeure. Et elle est restée l'équivalent de maître de conférence, c'est-à-dire on l'a cantonnée.
Une femme ne pouvait pas être professeure.
Une femme, c'est l'économiste, c'est un domaine d'hommes, point.
Et en même temps, elle a réussi à trouver sa place
Elle va avec ce livre qu'elle a publié en 1933, c'est-à-dire en pleine grande crise, le Royaume-Uni était particulièrement frappée par cette grande crise, au même titre que l'Allemagne ou que les États-Unis, elle va publier ce livre pour dire, le marché, ça fonctionne pas si bien que ça. Et d'une certaine manière, elle défend l'économie qu'elle appelle monopolistique, puisqu'elle parle de la concurrence imparfaite. Cette concurrence imparfaite, c'est le fait que des entreprises vont devenir progressivement monopolistiques. Alors, comment c'est possible? Et elle explique ça très simplement. Elle dit, dans la concurrence pure et parfaite, c'est les mauvais sont chassés du marché par les bons, par les meilleurs. Sauf que la seule façon de rester sur le marché, c'est de différencier son produit et de montrer que le produit que l'on produit, que l'on vend, est meilleur ou a des qualités qu'un autre produit concurrent n'a pas. Et donc, c'est l'apparition de petits monopoles où, je prends un exemple, c'est aujourd'hui, il y a des trottinettes électriques. Un producteur A dit ma trottinette, elle marche mieux que celle des autres parce que la capacité de la batterie est plus grande, ou elle roule plus vite, ou etc. Et les marques au sens commercial du terme vont être déterminantes. Et Joan Robinson explique que l'économie notamment de la grande crise, elle a éliminer tout plein de petits producteurs, mais faire apparaître tout plein de monopolistes qui sont pas des grosses firmes, mais qui sont des firmes qui se sont spécialisées dans un domaine.
Et donc ça remet en question cette idée, cette hypothèse de l'homogénéité des produits.
Absolument.
Qui avait été développée. Alors c'est intéressant peut-être de dire un mot, Denis Clerc, sur le cheminement intellectuel de Joan Robinson, qui finalement est passé du camp, entre guillemets, d'Alfred Marshall à celui de Keynes.
C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière par un livre consacré à ce qu'on appelle la microéconomie, c'est-à-dire les marchés, les acteurs sur le marché, etc. Et elle a obtenu une certaine audience. Mais au même moment, Edward Chamberlain, un Américain, a sorti un livre sur l'économie de la concurrence. Alors, c'est pas la concurrence imparfaite, c'est la théorie de la concurrence monopolistique. Et qui, en gros, disait la même chose. Sauf que Chamberlain avait beaucoup plus de marketing à sa portée et il a écrasé le marché, si bien que Joan Robinson n'a jamais pu vendre la totalité de la première édition de son livre. Ça l'a découragée, mais en plus, elle s'est rendue compte que d'autres découvrait les mêmes choses qu'elle au même moment à peu près, et donc elle a abandonné à ce moment-là la microéconomie pour suivre la pensée keynésienne. Elle a fait partie de ce qu'on appelait le circus de Keynes, c'est-à-dire le cercle des gens avec qui Keynes débattait de ce qui allait devenir la théorie générale. Elle va devenir une macroéconomiste très renommée, très dure. John Kenneth Galbraith raconte dans ses mémoires que un jour il est allé la voir à Cambridge en Angleterre, et que là-bas il dit: j'ai rencontré une femme charmante mais qui pouvait être d'une sécheresse incroyable.
En même temps, ça ne devait pas être facile de s'imposer dans ce milieu d'hommes, mais elle a changé d'avis effectivement, Denis Clerc, au point effectivement de remettre en question un certain nombre de choses qu'elle avait pu écrire au début
oui,
de sa carrière.
Elle a jamais voulu renier ce livre, mais elle a eu du mal à céder à la pression qui la poussait à faire une réédition de son livre. Elle a fini par céder en 1969, donc elle ne reniait pas ça, mais elle disait c'est une œuvre de jeunesse.
Vous parlez de John Kenneth Galbraith, Denis Clair, dans son ouvrage Le Nouvel État Industriel, ce qui est intéressant, c'est que Galbraith va remettre en question l'idée que c'est le consommateur qui détient le pouvoir. Ce que dit Galbraith, c'est qu'en réalité, l'entreprise peut déterminer elle-même ses prix.
Oui. Absolument. Et Galbraith, dans une phrase qui est extrêmement intéressante, enfin en tout cas qui n'appartient qu'à ce type, il dit « il faut quand même pas confondre Ford et la boulangerie du coin ». Alors, sous-entendu, il y a les gros et les petits. Alors les petits, la concurrence, elle s'applique. Hein, le boulanger, s'il fait du mauvais pain, ben, sa clientèle va disparaître. En revanche, Ford est capable même de faire une mauvaise voiture, Edsel, par exemple, mais de continuer à avoir des clients.
Et alors, parce comment que l'expliquer?
C'est ce qu'il appelle la filière inversée, c'est-à-dire que l'entreprise va déterminer par toute une série de stratégies de type marketing, prix...
Oui, la publicité joue un rôle très important.
Etc., annonces, etc., le nombre d'acheteurs du produit en question. Et il dit, parce que c'est trop important. Et il va parler de la firme centralisatrice ou de la firme planificatrice. Donc, la firme planificatrice, elle fait du socialisme à son échelle, elle détermine ses produits, et elle les vend avec tous les moyens, même si les consommateurs, après, ils se repentent d'avoir acheté ça plutôt qu'autre chose.
Donc, il remet en question la vision néoclassique qui disait, c'est le consommateur qui influe sur le marché, qui influe ensuite sur les producteurs.
Le consommateur roi, c'est pas la thèse de Galbraith.
Et alors, l'école autrichienne, qui regroupe des économistes comme Menger, von Mises ou encore Hayek, va rejeter l'idée que la concurrence est un état statique. C'était cette idée développée par Walras et Pareto. Pour eux, au contraire, la compétition, c'est un processus dynamique. Alors, pourquoi c'est important pour eux d'expliquer que la compétition est un processus dynamique?
Mais parce que, pour une raison simple, c'est que les prix, c'est ce qui va permettre le prix de milliers d'objets, de centaines de milliers d'objets ou de services présents sur le marché, vont déterminer la capacité de ces millions de producteurs et de consommateurs à trouver des accords. Donc c'est une forme de régulation de millions de personnes. Et le jour où on renonce à la concurrence et où les prix, par exemple, seraient fixés par l'État ou avec un plafond du style le blocage des loyers ou autre, on casse ce mécanisme d'information qui permet à des millions de personnes d'être complémentaires les unes des autres sans s'en apercevoir, de dépendre les unes des autres sans s'en apercevoir. Et au fond, ce que dit Hayek, mais surtout ce que dit, par exemple, en France, Pascal Salin ou aux États-Unis Murray Rothbard, etc., c'est la concurrence, même si elle est monopolistique, même s'il n'y a qu'un seul producteur, c'est pas grave, il y a un prix qui est fixé. Alors, on va tout faire pour que ce soit un prix moins élevé lorsqu'il s'agit de monopole, mais mieux vaut un prix qu'une décision publique.
Et est-ce que c'est lié aussi, Denis Clair, au refus de l'école autrichienne de mathématiser la science économique?
Oui, il dit que la science économique n'est pas mathématisable parce qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement, l'accord de millions de décisions quotidiennes. Je prends un exemple. La carte bancaire en France est utilisée 9,5 millions de fois chaque jour. Chaque jour, il y a 9,5 millions de gens. Et il dit, je me fais autrichien, bien que je ne partage pas leurs idées. Comment voulez-vous trouver un algorithme qui puisse rendre compte de 9 millions et demi de personnes à la fois qui ont décidé d'acheter avec une carte bancaire un objet ou un service?
Et alors justement, à ce propos, on peut également citer Schumpeter, qui va jouer un rôle important dans les théories de la concurrence. Et Schumpeter, lui, va rejeter l'idée d'une concurrence par les prix. C'est lui qui insiste sur le fait que la concurrence s'appuie sur la qualité des produits et sur l'innovation.
Oui. Alors, Schumpeter joue un rôle très, très important dans cette affaire. Il va écrire « Capitalisme, socialisme et démocratie » en 1942, traduit en français seulement en 1949. Et c'est un ouvrage dans lequel il... comment dire, il va mettre en scène ce qu'il appelle la concurrence, la concurrence destructrice, hein. Mmh. Mais destructrice parce que le neuf remplace le vieux. Et il insiste sur le fait que cette concurrence par l'innovation, par la nouveauté, par la capacité à inventer quelque chose d'autre ou à améliorer substantiellement un dispositif, par exemple les conteneurs en matière de transport maritime, eh bien, enfin, c'était pas à son époque, mmh, hein, mais c'est un exemple que je prends. C'est ça qui va déterminer le succès d'un produit. Et le succès d'un produit, c'est pas son prix qui le détermine, c'est son innovation par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent. Or, pour que l'innovation ait lieu, il faut souligne Schumpeter, qu'il y ait monopole. C'est-à-dire que le propriétaire du brevet innovant, mmh, puisse garder ce brevet suffisamment longtemps pour amortir les frais et pour attirer tout plein de gens qui vont être tentés, eux aussi, d'innover. La concurrence pharmaceutique fonctionne exactement, mmh, comme ça.
Donc c'est l'idée d'un monopole ponctuel, voilà, et ensuite, voilà, on revient à la concurrence.
On dit, mais c'est le prix à payer pour avoir de l'innovation si un jour on veut combattre efficacement, mmh, le cancer.
On disait tout à l'heure, Denis Clerc, que dans la vision de Walras, il n'y avait pas de profit ou une quasi disparition du profit. Selon l'économiste Pascal Salin, que vous citiez et que l'on va entendre dans un instant, c'est la vision dynamique de la concurrence qui permet d'expliquer le profit, contrairement à la vision statique. Pour quelles raisons est-ce qu'on peut ainsi ressusciter le profit dans la vision de Pascal Salin?
Ben justement parce que la concurrence pure et parfaite n'existe pas. Pour les Autrichiens comme pour les John Robinson, les Keynésiens, etc. Je parlerai de Stiglitz tout à l'heure. La concurrence pure et parfaite, ça, c'est un objet sans existence réelle.
Et c'est cette idée aussi peut-être que il faut du profit pour que les entrepreneurs prennent des risques.
Absolument.
Il n'y aura pas d'investissement sans cette perspective.
Voilà, le moteur, ça c'est du Schumpeter, le moteur de la croissance, c'est l'innovation. Et pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait propriété privée durant un temps, donc une espèce de monopole, mais en même temps, une propriété privée qui n'est pas éternelle. Et Pascal Salin dit, les seuls monopoles éternels sont les monopoles d'État.
Un auteur comme Hayek, lorsqu'il a expliqué ce qu'il appelle l'ordre spontané, a bien montré que la complexité impliquait justement de se reposer sur tous les individus et leurs interactions, parce que il a bien souligné, et je crois qu'il avait tout à fait raison de ce point de vue-là, que tous les problèmes qu'on appelle parfois des problèmes économiques sont en fait des problèmes d'information, et que un processus de production, c'est d'abord un processus de création d'informations. Et donc les informations sont tellement nombreuses, tellement changeantes, surtout à notre époque, que personne ne peut le maîtriser centralement et qu'il faut l'interaction des individus avec ce que ça peut impliquer d'erreurs, n'est-ce pas? Parce qu'on a trop facilement tendance à pointer du doigt...
Le marché peut se tromper, hein?
Non, mais bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup plus de chances que le bureau central se trompe parce qu'il ne peut pas avoir toute l'information et l'information changeante.
Voilà l'économiste Pascal Salin dans l'émission du Grain à Moudre sur France Culture, qui était alors présentée par Brice Couturier. C'était le 4 avril 2011. Selon Hayek, l'État a beaucoup plus de chances de se tromper que le marché. C'est cela qu'il
faut
retenir.
Oui, oui. Le marché peut se tromper, mais temporairement. Et parce que les gens seront déçus ou parce que le producteur va faire faillite, et donc c'est pas grave. C'est une espèce de fonctionnement darwinien en quelque sorte. La nature va déterminer ceux qui survivent parce qu'ils sont mieux équipés et va éliminer ceux qui sont moins bien équipés. La concurrence, même si elle est monopolistique, joue le rôle d'une sélection darwinienne.
Et alors quelle critique est-ce qu'on peut opposer à cette vision, selon vous, Denis Clerc, cette vision qui exclut quasiment totalement l'État?
Alors, j'y reviendrai tout à l'heure sur la vision, enfin la critique qu'on peut faire, qui est sans doute la plus forte. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est intéressant comme démarche, parce que on voit bien que il ne s'attache pas, comme les Walrasiens et comme ce qu'on appelle les néoclassiques, à un modèle qui n'a pas de réalité. Mmh. Ils essayent de regarder les choses telles qu'elles fonctionnent. Mais sauf que la difficulté, ça va être quel prix faut-il payer pour que un produit, on se rende compte que finalement, il fait plus de tort que de mal. Il aura fallu 15 ans ou 20 ans pour comprendre que tel médicament avait des effets négatifs et pas simplement des effets positifs. Et donc, ils oublient complètement que il y a dans cette affaire, lorsque le marché n'est pas parfait, eh bien, il y a des perdants et des gagnants. Et Hayek va légitimer ça en disant ben, « Nul n'y peut rien. Hein. » C'est comme ça que l'humanité tout entière peut avancer. Les perdants, eh ben, on saura qu'ils avaient pris les mauvaises pistes. Puis les gagnants, on les suivra parce qu'ils ont pris les bonnes pistes.
Et alors, face aux limites de la conception de Walras, il y a cette conception de Hayek et il y a aussi à l'autre bout du spectre, si je puis dire, les keynésiens qui estiment, eux, qu'il faut une plus grande intervention de l'État. Et aux États-Unis, en effet, dans les années 50, ce qu'on constate, c'est que l'État se montre assez interventionniste.
Oui, oui, oui. Mais ce qui me frappe, c'est surtout la légitimation de l'absence de concurrence dans un certain nombre de domaines. Par exemple, le fait qu'il y ait 3 ou 4 producteurs de voitures dans un grand pays, les États-Unis, par exemple, ça, il y en a 3 points, c'est pas choquant pour un certain nombre d'économistes, parce que dès lors que le marché est contestable, c'est une conception qui est avancée par William Baumol, un économiste américain, et il dit il suffit que la menace d'arriver sur le marché existe pour que ça assagisse les monopoles existants. Même si les firmes sont puissantes, elles veilleront à ne pas être trop puissantes, parce que sinon un nouveau concurrent va apparaître. Ça, c'est le marché contestable.
C'est l'idée, si je vous comprends bien, Denis Clerc, qu'il peut y avoir des monopoles sans que les prix augmentent, car les entreprises courent toujours le risque de voir de nouveaux concurrents arriver sur le marché et elles vont donc baisser leurs prix.
Voilà. Et elles vont renoncer à une partie de ce qu'on appelle la rente de monopole. Elles resteront en monopole parce que c'est intéressant pour elles, mais elles veilleront à ne pas exagérer. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que on est dans un autre univers qui est en train de se dessiner. Ça, c'était l'univers plus classique. Mais c'est François Lévesque que vous receviez hier qui a montré à quel point aujourd'hui il y avait des pouvoirs des firmes qui étaient surpuissantes. Je m'explique. Lorsque des économistes calculent ce qu'on appelle les taux de marge, c'est-à-dire en gros la marge brute qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a payé tous ses coûts, donc pour investir, pour rembourser ses emprunts, pour payer des dividendes, etc., etc. Eh bien, ils ont constaté que entre les années 1980 et les années 2010-2015, je crois que ça s'arrête en 2016, le taux de marge moyen des entreprises avait très fortement augmenté. C'était pas toutes les entreprises qui étaient pour lesquelles il y avait une augmentation, c'était simplement les entreprises du dernier dixième. Le dernier dixième, c'est-à-dire les entreprises les plus rentables ont connu une explosion de leurs profits. Pourquoi ? Parce que elles ont un monopole de fait. C'est « The winner takes all ». Le film de John Huston sur le trésor de la Sierra Madre, c'est l'histoire en deux mots. Un prospecteur d'or a découvert un filon, mais il est mort avant de pouvoir dire où il était, ce filon. Et donc, le bruit se répand. Des milliers de prospecteurs essayent de trouver le filon, mais on ne saura qu'un seul le gagnera. Un seul, aujourd'hui, c'est Amazon.
Et alors, du coup, c'est un processus de concentration, Denis Clerc, qui remet en question la vision développée par William Baumol d'une contestabilité des marchés, puisqu'en réalité, les nouveaux entrants ne parviennent pas à arriver. Voilà. Pour quelle raison est-ce qu'ils n'arrivent pas à entrer sur ce marché, Denis Clerc? Parce que les barrières à l'entrée sont trop importantes.
Voilà, vous avez tout compris. Les barrières à l'entrée, d'une part, et la capacité d'innovation, d'autre part. Quand on a une rente de monopole très forte, Je vais prendre l'exemple d'Apple. Aux alentours, en bourse, la capitalisation boursière de la société Apple, c'est à peu près 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est la plus forte capitalisation qu'on ait jamais connue à la bourse. Mmh. Ceci pour une firme qui emploie à peu près 30 000 salariés. Donc, c'est pas une énorme firme ayant des centaines de milliers de salariés. Donc, pourquoi, quand elle a lancé ses produits nouveaux, iPhone, etc., eh bien, elle a accumulé une rente de monopole, elle était la seule. Progressivement, d'autres sont venus sur ce marché et ont fait la même chose, sauf que Apple a toujours un pied d'avance, parce que avec les énormes bénéfices qu'Apple a fait grâce à ce monopole, ils peuvent financer des recherches qui vont leur permettre d'être toujours les premiers. Alors, c'est pas éternel, hein. On voit bien, par exemple, en Finlande, Nokia a loupé le smartphone et il est resté, du coup, il a dégringolé.
Mais donc, seule une innovation particulièrement importante pourrait changer la donne.
Oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la concentration dans quelques domaines, les domaines du numérique, hein, on va dire, la concentration des pionniers qui ont gagné, qui étaient les gagnants, qui ont tout raflé, et leur donne une marge telle qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi, et y compris des choses qui sont erronées, des risques qu'ils prennent, etc. Les autres peuvent pas. Ils savent que s'ils doivent investir dans un produit incertain ou dans une recherche incertaine, il y a une chance sur deux pour qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils déposent le bilan. Apple peut se permettre tout. Il y a une surpuissance de ces grandes firmes qui remet en cause tout le fonctionnement de l'économie de marché.
Et il n'y a pas que le numérique. Vous parliez tout à l'heure des constructeurs de voitures. Le nouvel entrant, s'il voulait s'aligner ou entrer sur le marché, devrait produire énormément pour que les économies d'échelle permettent de pratiquer des prix de vente qui sont analogues aux producteurs en place.
Oui, mais c'est différent là. Parce que, alors, peut-être le premier qui sortira la voiture électrique qui permettra réellement de se substituer à l'ensemble des moteurs thermiques, peut-être que celui-là, il va emporter le morceau. Ce sera le winner qui prendra tout. Hein. Mais entre les constructeurs automobiles, eh ben Renault et Volkswagen font en gros les mêmes gammes de voitures. Et enfin, pas tout à fait, mais je rentre pas dans les détails. Et au fond, c'est un oligopole plus qu'un monopole. Tandis que iPhone, c'est un monopole. Il y a personne d'autre qui a sorti un iPhone. Ça commence maintenant, mais durant longtemps, ça a été.
Il y a beaucoup de smartphones désormais qui essayent de concurrencer.
Et alors, ça a des effets indésirables, extrêmement importants, parce que ces firmes qui sont destructrices en quelque sorte du marché, qui occupent le marché. Je pense à Amazon, Apple, Microsoft, etc. Ces firmes-là, elles sont pas vraiment concurrencées par d'autres. Et du coup, on est devant quelque chose qui est un objet nouveau. Baumol est rangé au rancard.
Alors pour autant, est-ce qu'il faut remettre en question toute forme de concurrence? Pour Jean-Marc Daniel, la concurrence demeure l'un des trois piliers de la croissance aux côtés de l'énergie et du progrès technique.
Une politique économique efficace, c'est une politique systématique de concurrence. Concurrence au niveau national, concurrence sur le marché du travail. Le marché du travail doit être le plus dérégulé possible afin qu'il n'y ait plus cette déformation au profit des insiders et aux dépens des outsiders. Et puis, concurrence internationale. On retrouve là encore une fois Ricardo. Le meilleur moyen de lutter contre les rentes, le meilleur moyen de faire de la croissance, le meilleur moyen de consolider le progrès technique, c'est de faire du libre-échange.
Voilà, que vous inspirent ces propos de Jean-Marc Daniel, Denis Clerc?
Oh ben Jean-Marc Daniel les tient souvent, il les écrit dans nombre de livres, c'est un homme très talentueux, je ne partage pas cette espèce d'enthousiasme en faveur de la concurrence. Il gomme systématiquement l'envers de la concurrence. Je vais en citer un, hein, simplement. Tout à l'heure, je parlais du gagnant qui prend tout, et je citais l'exemple d'Apple. Eh bien, ça a deux effets pervers. Le premier effet pervers, c'est que les inégalités s'accroissent d'une manière énorme. Le taux de marge dont je parle, c'est ce qui reste dans l'entreprise. Ce sont donc pas les salariés qui en ont bénéficié de cette rente de monopole, c'est principalement les dirigeants. Et c'est ce qui explique qu'il y ait des dirigeants dont les salaires ou dont les revenus plus exactement dépassent l'entendement et ils vivent dans une autre planète. Et puis il y a un deuxième effet dans la finance où les asymétries d'information ont été importantes au point que des produits pourris ont été vendus comme étant ayant une note un triple A et c'est la crise de subprime lorsqu'on s'est aperçu que ce produit miracle qui rapportait beaucoup d'argent et qui était sûr en réalité était un produit pourri.
Donc on est loin d'une information parfaite.
Oui, donc asymétrie d'information, ça a eu un effet dramatique sur l'ensemble de la population dans l'ensemble des salariés.
Est-ce que vous diriez globalement que ce modèle de concurrence imparfaite qui est peut-être plus crédible que la concurrence pure et parfaite dont on parlait auparavant, a tout de même l'inconvénient de bénéficier principalement aux gros producteurs et de désavantager les petits producteurs et surtout les consommateurs
et aussi les salariés.
Et les salariés.
Voilà. Il y a des salariés qui ont des capacités de résistance, soit par la force, soit par le talent. Il y a d'autres capacités, des salariés qui n'ont pas de capacité de résistance.
Et c'est pour ça que, selon vous, l'action publique est nécessaire pour contrer ces imperfections de la concurrence. C'est aussi ce que disent des auteurs comme Galbraith et Stiglitz que vous citiez tout à l'heure.
Oui, et c'est ça qui, à mon avis, marque la thèse de Jean-Marc Daniel, qui, une fois encore, est un homme talentueux, mais il gomme tous les défauts de la pièce. Et du coup, ces défauts-là, eh bien, ils disparaissent. Et on est exactement dans le retour au 19e siècle, où on mettait tellement de louanges sur la concurrence que quiconque était contre la concurrence, du type Marx, par exemple, était considéré soit comme un imbécile, soit comme un danger public. Et aujourd'hui, trop insister sur les qualités et les bienfaits de la concurrence sans montrer que ça a aussi des effets qui peuvent être pervers, eh ben c'est dangereux.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un rapport présenté lors du G7 de Metz, nous annonçant la fin programmée de la biodiversité.
Voici le bruissement ordinaire et familier auquel il nous faudra bientôt renoncer. Oublier le bruit des oiseaux, oublier les insectes aussi, et toute une partie de la nature condamnée à brève échéance par l'humanité. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport élaboré par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, ou IPBS, et remis aux chefs d'État et de gouvernement lors de ce sommet. L'intérêt de ce rapport est de synthétiser une décennie de travaux scientifiques pour dresser un panorama général et cohérent de l'état de la biosphère. Et le constat est une nouvelle fois sans appel. Une grande partie de la nature est déjà perdue et ce qui reste continue de décliner.
Et c'est bien entendu l'homme qui en est la cause.
Oui, 1 million d'espèces vivantes menacées d'extinction par une seule. L'humanité comme force de destruction massive est à l'origine de la 6e extinction du vivant et rien ne semble aujourd'hui en mesure de l'arrêter. En tout cas pas les maigres engagements pris par les dirigeants internationaux à l'occasion de ce sommet. Tout au plus, la déclaration commune acte-t-elle la nécessité d'accélérer et d'intensifier les efforts des pays et d'encourager l'engagement d'autres acteurs, en particulier les entreprises. Encourager, accélérer, améliorer, autrement dit surtout ne rien changer. En France, le gouvernement parle de lutte contre le gaspillage et de plastique recyclé comme horizon pour sortir de cette crise de l'humanité.
Pourtant, ce rapport de l'IPBES montre bien les conséquences économiques désastreuses que pourrait avoir cet effondrement sur nos sociétés.
Oui, comme bien souvent, le seul langage que comprennent les dirigeants économiques et politiques de ce monde est celui de leur propre intérêt. Avec le fol espoir qu'ils seront enfin entendus, les scientifiques ne mâchent donc pas leurs mots. L'humanité est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise et il n'y aura cette fois pas de retour possible. Comme l'explique Robert Watson, président de l'IPBES, nous sommes en train d'éroder les fondements même de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Des situations bien souvent irréversibles, si bien que la productivité de la Terre décroît désormais sur près d'un quart de la surface du globe. Ainsi, 85% des zones humides ont aujourd'hui disparu, la moitié des coraux ont été détruits et un quart des espèces animales est en voie d'extinction. Une destruction production de masse qui a en retour un véritable effet sur la capacité de l'homme à prospérer, à vivre et à survivre dans ces milieux.
Et pourtant, aucune décision concrète n'a été prise lors de cette réunion du G7 Argentin.
Non, bien sûr, sur le modèle des conférences pour le climat qui se suivent et se ressemblent sans que la moindre décision soit prise, cette réunion se perd dans un concours de faux-semblants. Il faut dire que les intérêts financiers sont absolument phénoménaux, puisqu'une véritable mobilisation pour protéger la nature remettrait en cause notre modèle de production et de consommation sur lequel sont fondées les plus grandes fortunes du monde. Fidèles à leur rôle de chef des somnambules, les États-Unis ont réaffirmé à l'issue de cette réunion leur volonté de se retirer des accords de Paris pour promouvoir la croissance économique et l'accès énergétique. Si cette déclaration semble cynique, au moins a-t-elle le mérite de la clarté? Au moins les États-Unis revendiquent-ils ouvertement leur volonté de protéger intérêts et profits, fût-ce au détriment de la vie? Au moins Trump ne fait-il pas mystère de ses intentions, contrairement aux pays qui revendiquent leur engagement écologique sans engager la moindre mesure pour encadrer l'activité économique. La croissance, toujours la croissance et jamais les oiseaux.
C'était You Set the Market de Bob Broseman. Merci beaucoup, Denis Clerc, de nous avoir emmenés aujourd'hui à la découverte des textes fondateurs des théories de la concurrence. Demain, nous parlerons du dilemme de l'Europe qui semble écartelée entre la volonté de combattre les monopoles et le désir de voir émerger des champions européens. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.